Allez, je tire 200. Fric, thune,
pognon,
oseille,
la moula,
grisby,
salaire, honoraire,
prime, pension de retraite,
livret A, héritage,
assurance vie, impôt,
déduction, investir,
bitcoin, crédit,
intérêt,
SCPI,
plan d'épargne action,
PER,
travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi, trop souvent, d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous allons poser un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles, osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles.
Du 26 juillet au 11 août 2024 auront lieu les Jeux Olympiques à Paris. Déjà, les hôtels se remplissent très vite et affichent des prix indécents. 400% d'augmentation en moyenne au moment où je vous parle, soit 1000 euros la nuitée en moyenne, et nous n'avons peut-être encore rien vu. La plupart des hôtels affichant complet ou n'ayant pas encore ouvert à la location, des touristes étrangers, sans doute beaucoup de Français de province, chercheront des chambres à louer en location saisonnière sur Airbnb, Abritel, Booking, pour les plus connus. Une perspective qui donne des idées à de nombreuses parisiennes et franciliennes qui n'ont jamais loué leur appartement ou leur maison, mais commencent sérieusement à y songer. Car les prix affichés chez Airbnb, par exemple, font rêver d'un rendement rapide. Exemple, dans le 20e arrondissement, pourtant loin des beaux quartiers, les proprios demandent jusqu'à 500 euros la nuitée à l'ouverture des Jeux Olympiques, déjà. Mais les visiteurs mettront-ils la main à la poche à ces prix-là ? Alors, les Jeux Olympiques, bonne affaire pour s'offrir un complément de revenus ou miroir aux alouettes? En tout cas, parisienne ou pas, Jeux Olympiques ou pas, c'est le moment de bien comprendre le fonctionnement de la location saisonnière pour décider si on se lance ou pas l'été prochain. Et pour décrypter la location saisonnière, nous recevons aujourd'hui Élise Ripoche. Bonjour Élise.
Bonjour.
Et bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour Léo à la technique. Élise, notre experte, vous êtes créatrice de J'affiche complet, qui s'adresse aux professionnels du tourisme ou aux novices qui souhaitent apprendre ou être accompagnés pour maximiser leur chiffre d'affaires au quotidien en location saisonnière, notamment celles et ceux qui se lancent dans la location saisonnière de courte durée. Et je vous pose la première question. Élise, alors, puisque nous parlons des femmes et de leur argent, du côté des hôtes, des proprios, d'après ce que vous constatez, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui se lancent dans la location saisonnière ?
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Moi aussi.
Malheureusement, c'est un vrai regret pour moi, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'hommes, je trouve, qui vont plus spontanément aller vers l'immobilier. Alors, en la matière, il y a beaucoup de façons de l'expliquer. Moi, je n'ai pas vraiment de conviction sur ça, mais je dois bien en venir à la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, malheureusement.
Malheureusement, oui.
Mm-hmm. Alors, Élise, quels sont les pièges évitables de la location saisonnière quand on débute ? Parce qu'en fait, on va mettre à disposition son propre appartement, ou en tout cas un de ses propres appartements, et il y a un attachement à cette chose-là.
Exactement. C'est vrai que les pièges dans lesquels on peut tomber au démarrage, c'est de se dire c'est simple, je vais mettre mon bien, c'est soigneusement décoré, enfin je prends soin et puis je sais faire du ménage. C'est vraiment
nier. J'ai fait un peu d'homestaging.
Voilà, c'est ça. J'ai fait un peu d'homestaging. J'ai fait un peu d'achat chez Ikea récemment. Mm-hmm. Et du coup, c'est vraiment oublier le fait que aujourd'hui la location saisonnière, même si ça semble simple, il y a une démarche professionnelle extrêmement forte qui est attendue des voyageurs. Aujourd'hui, un voyageur, il va plus tellement faire la différence entre réserver un bien sur Airbnb ou réserver une chambre d'hôtel.
Ah oui, carrément.
D'ailleurs, il oscille souvent entre les deux offres, selon ce qu'il trouve en termes de prix, en termes de localisation. On le voit très fort sur la plateforme de Booking.com, par exemple, qui fonctionne très bien en ce moment et qui, en fait, permet aux voyageurs d'osciller entre les deux offres parce que tout est mis ensemble et puis on choisit en fonction de ce qui nous semble le mieux. Donc, oublier qu'il faut avoir une vraie démarche professionnelle, c'est l'erreur la plus fréquente au début. Alors, une démarche professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Pour aider les personnes qui nous écoutent à se dire, OK, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est avoir un appartement ou un bien le plus dépersonnalisé possible parce que ben, quand on y habite, c'est sûr qu'il y a toutes nos affaires. Donc, il y a des personnes qui vont carrément se dire, quand je loue, je retire en fait tout un tas d'affaires que je vais mettre dans un endroit fermé, protégé aussi.
Je retire toutes les photos de mariage, de bébé, de mémé,
exactement.
De papy.
Je retire les cadeaux de fête des mères, des enfants que je mets d'habitude au-dessus de la
chemise.
Voilà, exactement. Donc, retirer tout ça. Aussi, accepter d'investir un peu dans le projet. Quand on veut mettre en courte durée, ça suppose, par exemple, de faire venir un photographe à la maison qui va nous coûter entre 100 à 150 euros, mais qui va permettre d'avoir vraiment des photos professionnelles, de sortir du lot et d'avoir une offre qui va attirer le voyageur, plutôt que des photos prises à l'iPhone, même si les iPhones sont très bons aujourd'hui, enfin, l'iPhone ou au mobile, quoi, mais même si la qualité est bonne, mais en fait, on n'est pas photographe. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Il faut accepter aussi le volet un petit peu technique, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre une annonce sur les plateformes. Il faut se pencher un peu sur le paramétrage de ces annonces-là. Et puis, ne pas se comporter comme un bleu, on pourrait dire, au démarrage. On peut avoir la tendance de se dire, bon, je veux juste mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc, même si ça part pas trop cher, c'est pas si grave. En fait, en bradant les prix, c'est préjudiciable pour tout le monde. Donc, il faut vraiment prendre le soin de se dire quel est le potentiel financier de mon bien à ce moment-là. Et non, je vais pas brader les prix, parce que ça fait partie des erreurs sur lesquelles on va passer à côté d'argent. Et en plus, on cause du préjudice au marché tout entier.
Et Élise, quid des services? Parce qu'il m'est arrivé de voyager un peu partout dans le monde. Et quand on arrive à l'hôtel, on demande aux gens où sont les musées, où sont les restos sympas, où sont les endroits dans lesquels on a envie de passer du temps. Comment vous éduquez vos clients, ceux qui veulent faire de la location saisonnière, pardon?
Ouais, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on recommande aujourd'hui, en bonne pratique, d'avoir ce qu'on appelle un livret d'accueil. Aujourd'hui, historiquement, on se disait de la location saisonnière, il faut que j'accueille les voyageurs, parce que c'est ce qu'ils attendent, en effet, pour ces raisons-là notamment, pour avoir les bonnes adresses, etc. On remarque que post-pandémie, voilà, les goûts ont beaucoup changé sur ça. Les gens préfèrent avoir une arrivée autonome, ils sont moins stressés sur l'horaire, et le souhait des voyageurs a changé sur ça, avec les serrures connectées notamment. Donc, pour pouvoir avoir cette même qualité d'accueil, on recommande maintenant d'avoir ce qu'on appelle des livrets d'accueil. Alors, la version ancienne, c'est le papier sur la table. La version nouvelle, ce sont des systèmes de livres digitaux. Il y a différentes sociétés qui proposent ça et qui vont permettre de donner toutes les adresses. Et ça, en effet, ça fait partie des erreurs qu'on peut faire, de ne pas soigner aussi l'accueil, malgré le fait que ce soit un accueil autonome. C'est important de soigner l'accueil, oui.
Alors, est-ce qu'on peut, je tiens bien compte de ce que vous venez déjà de nous expliquer, mais est-ce qu'on peut s'improviser, autant la location saisonnière, se dire par exemple, bon là c'est le moment ou jamais, il y a les Jeux Olympiques, est-ce qu'on peut s'improviser autant location saisonnière ou est-ce que ça demande des connaissances préalables, tous azimuts?
Alors c'est vrai que ça demande pas forcément des connaissances en amont qui seraient rédhibitoires pour se lancer. Par contre, il faut faire l'exercice de se renseigner dès lors qu'on veut entamer le projet. C'est comme tout projet professionnel ou semi-professionnel, où il faut vraiment se renseigner. Alors, les aspects qui sont importants, c'est déjà prendre conseil sur la partie fiscale et légale, selon la ville sur laquelle on exploite. C'est vraiment hyper important de s'assurer qu'on est dans la légalité, qu'on a le droit d'exploiter. On le sait tous, à Paris, c'est quand même extrêmement contraint. Il y a aussi la partie assurance, en effet, sur laquelle il faut se couvrir. Et je crois qu'on aura peut-être, si vous souhaitez l'occasion d'en reparler pendant notre échange, mais c'est quelque chose qui est très important en cas de pépin. Par ailleurs, il y a aussi un point sur lequel il faut se pencher. Ça corrobore pas mal avec cette démarche professionnelle, mais il ne faut pas négliger l'aspect ménage. On peut se dire, bon, je fais du ménage chez moi, je sais bien comment on lave un appartement, quoi. En fait, la réalité, c'est que non. C'est-à-dire, à moins d'être ultra maniaque, on ne sait pas faire un ménage professionnel de qualité hôtelière. C'est un métier et les attentes qu'on a nous-mêmes. Je pense qu'on peut tous se poser la question de quelles sont mes attentes en tant que voyageur. On s'attend tous à une qualité de ménage extrêmement professionnelle, quasi parfaite, sinon parfaite. Et projeter ça sur son lieu de vie, ce n'est pas anodin. Donc, se pencher sur ça, c'est aussi important, parmi les choses à savoir, à considérer et sur lesquelles se former ou apprendre. Et puis, il y a toute cette partie relation commerciale, parce que mécaniquement, on entre dans une activité commerciale, pareil, avec des attentes de clients, de relations commerciales. Et sur ça aussi, il faut se renseigner, travailler. Il y a pas mal de choses à savoir. Mmh. Je ne suis pas sûre que sur le marché, on ait vraiment des formations spéciales dédiées à ça. Pour moi, la meilleure façon aujourd'hui, quand on veut faire du Airbnb, c'est d'être au contact des professionnels, notamment sur Internet. Le bon vieux groupe Facebook, il fonctionne aussi pas mal sur ça. Et puis après, on commence à avoir les feedbacks des voyageurs et on se rend compte rapidement s'il y a des choses qui vont pas bien, quoi. Mm-hmm. Donc c'est de l'auto-formation. Malheureusement, ça n'existe pas, la formation sur le ménage, mais il faudrait la créer.
Alors, c'est pas pareil de louer son studio, un appartement prestigieux dans un beau quartier, une maison avec ou sans jardin et piscine. Alors, comment choisir la bonne plateforme de location saisonnière ? Tout le monde connaît Airbnb, mais il y en a d'autres. Comment savoir quelle plateforme convient le mieux à notre bien et aux besoins de nos hôtes, quoi, et aussi aux nôtres?
Oui, exactement. En effet, là, actuellement, ce qu'on recommande, c'est d'être sur les deux plateformes qui sont poids lourds du domaine d'activité, c'est Airbnb et Booking.com. Mmh. Aujourd'hui, on observe que Booking.com a plus de parts de marché que Airbnb. Alors que c'est vrai, spontanément, on pourrait se dire, tiens, je mets mon bien.
Oui, c'est vrai.
On va se dire, je mets mon bien sur Airbnb, justement. Comme si, alors qu'on peut aussi mettre sur Booking.com, et Booking.com a une force de frappe commerciale actuellement qui est plus importante. Parfois, on me dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être sur les deux plateformes ? La réponse est oui, parce que justement, comme ce sont deux titans qui se prennent des parts de marché au fil du temps, aujourd'hui, c'est peut-être Booking.com. Dans le passé, il y a eu des moments où c'était Airbnb, et ça pourra changer dans le futur. Donc, il faut vraiment jouer sur les deux tableaux. Et par rapport à ça, sur les plateformes qui sont spéciales, parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous mettez ponctuellement votre bien à la location, votre résidence principale, actuellement, ce qui sera le plus intéressant, c'est de vous limiter à deux plateformes, Airbnb et Booking.com. C'est seulement dans une situation où on exploite toute l'année un bien en location saisonnière que ça peut avoir du sens d'envisager d'autres plateformes plus spécifiques, notamment sur le haut de gamme ou spécialisées sur certains besoins. Si on donne un exemple le plus récurrent, c'est si on a un bien vraiment de grande taille avec beaucoup de chambres, ça peut être intéressant de se positionner sur Abritel, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est seulement si on exploite toute l'année. Le socle de base, c'est vraiment Airbnb et Booking.com.
Si on a un appartement dans un quartier un peu prestigieux.
Alors, si on a un appartement dans un quartier prestigieux, ça peut être intéressant de se tourner vers des plateformes comme Belle Demeure, des plateformes qui sont plus haut de gamme. Mais c'est vraiment, on peut avoir tendance à penser très vite, je suis dans un bel arrondissement et j'ai un bien de qualité. Mais on peut avoir tendance à se dire, du coup, je ne vais pas aller sur Booking.com et Airbnb. Il y a beaucoup, beaucoup de biens sur des très beaux quartiers, de très belles qualités sur ces plateformes déjà. Donc, c'est un très bon démarrage déjà avec ces deux plateformes.
Alors Élise, comment se rémunèrent les plateformes de location ? Quelle est la commission moyenne qui est due à la plateforme ? Et cette commission, elle représente quel pourcentage du prix de la nuitée ?
Alors les plateformes, elles vont se rémunérer en pourcentage de ce qui est vendu sur la plateforme. Le pourcentage, pour se donner une idée, donc c'est globalement sur Booking.com de 15 à 17% et sur Airbnb 3 ou 15%. C'est un pourcentage qui est appliqué à l'hôte. C'est un pourcentage qui, en général, fait peur parce que on va se dire que ça vient ponctionner en fait, l'argent que moi, je gagne. Dans les faits, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'en fait, il y ait, quand on fait varier son prix à la location, qu'on applique une majoration quand ça part vers les plateformes pour prendre en compte cette commission-là. C'est-à-dire qu'on va majorer son prix pour considérer ces frais en fait, qui vont être occasionnés.
Alors, il y a des plateformes qui offrent des services de conciergerie, des remises de clés, des ménages, des changements de draps. J'imagine que cela augmente beaucoup le coût de la rémunération due à la plateforme.
Oui, alors c'est vrai que si on se fait aider d'une conciergerie, ça va augmenter les frais qui sont occasionnés par l'activité. Les conciergeries, en général, elles vont prendre entre 20 à 25%.
Vous voulez dire qu'ils s'ajoutent à la commission dont on a déjà parlé ?
Absolument.
Exactement. Exactement. Alors après, au début, c'est vrai, et je comprends tout à fait, on peut se dire, oh là là, c'est vraiment des sommes astronomiques. Maintenant, le temps que prend l'exploitation en location saisonnière, il est vraiment énorme. Donc souvent, quand on a des personnes qui regrettent, retirent leurs biens en location saisonnière auprès d'une conciergerie, le font eux-mêmes, finissent souvent par le redonner à une conciergerie parce que la charge mentale et le temps passé, il est vraiment énorme. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparente, le business model de la conciergerie en lui-même, ce n'est pas un business model qui est hyper rentable, quoi. Parce que c'est tellement chronophage comme travail, il faut être disponible pour les voyageurs tout le temps, c'est-à-dire avant la réservation pour répondre aux questions, pendant la réservation pour répondre aux questions liées à la facture, la prise de réservation, etc. Pendant leur séjour, j'arrive pas à allumer la plaque, j'arrive pas à ouvrir la serrure connectée. Enfin, c'est vraiment massif comme travail. Et par rapport à ça, du coup, malgré ça, parce que c'est aussi l'inquiétude qu'on peut avoir, de se dire, bah, en fait, je paie Airbnb, je paie la conciergerie. Bon, en fait, ça vaut pas la peine de mettre mon bien sur Airbnb.
Et on n'a pas encore parlé de la fiscalité.
Et on n'a pas encore parlé de payer l'État.
Qu'est-ce qui nous reste dans la poche ?
Voilà, exactement. Et du coup, bah, en réalité, si, malgré tout, on a beaucoup de situations sur lesquelles... Alors évidemment, il y a des cas sur lesquels ça n'est plus rentable, mais il y a beaucoup, beaucoup de cas sur lesquels ça reste rentable de pouvoir exploiter en courte durée en payant une conciergerie.
Puisqu'on est en train de parler de la rentabilité de ce type de solution, et puisque ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément,
moi aussi,
je mets mon appartement en location, mais il n'est pas loué 100% du temps, il est loué 10 jours, 15 jours dans le mois, quoi. Et puis des fois, je reviens. Alors donc, des fois, je l'occupe et donc, je ne peux pas le louer. Comment est-ce qu'on peut évaluer la rentabilité? Je n'ai pas honte de dire que moi, je pense que les gens qui se bagarrent pour faire du Airbnb, pour beaucoup, et qui font tout eux-mêmes, okay, gagnent de l'argent. Ceux qui le sous-traitent gagnent beaucoup moins d'argent, mais aussi, voilà, la situation est différente, parce que les biens ne sont pas occupés 100% du temps.
Bah, ça dépend. Hein. Alors oui, il y a les fois où on veut récupérer son bien. Mais après, ça dépend des marchés. Là, je ne sais pas si c'est un bien à Paris que vous dites, mais le remplissage, il peut être vraiment très proche du 100% toute l'année. Hein.
D'accord.
Ouais. Après, justement, sur ça, je parle d'un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est la tarification. C'est que, bah, oui, il faut que la tarification soit en adéquation avec le potentiel du marché autanté pour pouvoir avoir un remplissage qui soit le meilleur possible toute l'année. Donc, c'est vrai que indéniablement, la rentabilité sera inférieure si on délègue. Mais comme on y passera à zéro minute, ou proche de zéro minute, à part cas très grave, une chaudière qui pète ou un truc comme ça, mais sinon, bah c'est de l'argent qui est plus facile, on va dire, d'accord, que si on devait exploiter soi-même. Et c'est vrai que ça reste intéressant par rapport à l'exploitation en longue durée. Parce que souvent, c'est ça l'arbitrage en tant qu'investisseur. C'est-à-dire, si je me mets en longue durée, je gagne tant. Et là, si je délègue à une conciergerie, je gagne combien, quoi.
Un propriétaire peut louer son bien combien de nuitées dans l'année, de jours ou de nuitées dans l'année maximum?
Alors, si on parle virtuellement toute l'année, oui. Maintenant, ce qui nous bloque en fait sur ces aspects-là, ce sont les règles mises en place par les villes, les communes, oui. Les agglomérations sur lesquelles on possède le bien. Donc, le plus connu en la matière, c'est la ville de Paris,
oui.
Qui impose beaucoup de contraintes par rapport à ça, notamment la contrainte des 120 jours.
Oui.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce 120 jours. Donc, on peut peut-être parler de Paris, justement, comme on évoquait aussi le sujet des JO et tout ça. Les 120 jours, c'est si on exploite un bien à usage d'habitation. Un bien à usage d'habitation, ça va être contraint sur 120 jours. Et ils réfléchissaient à le restreindre un peu, etc., mais ce n'est pas fait. Si on a un bien qui est à usage commercial, dont l'exploitation a été validée en meublé de tourisme, à ce moment-là, là, on peut l'exploiter toute l'année, sans aucun problème, dans Paris intramuros. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme on l'a tous bien compris, hein, la mairie de Paris n'est pas hyper fan des locations saisonnières.
Alors, qui est-ce qui fixe le prix de la nuitée? Est-ce que c'est l'hôte tout seul, le propriétaire tout seul qui fixe le prix, ou est-ce que la plateforme l'aide à fixer le juste prix après la visite du bien ou pas de visite du bien, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin bref, comment le prix est-il fixé?
Alors aujourd'hui, sur les plateformes, il n'y a pas forcément de visite du bien qui est prise en charge. La seule chose qu'on peut avoir, c'est Booking.com qui va s'assurer de vérifier que le bien existe vraiment ou que l'établissement existe vraiment. Soit par l'envoi d'un courrier, simplement, et dans ce courrier, il y a un code et il faut le mettre sur la plateforme, soit par le fait de tourner une vidéo en fait à l'intérieur du bien. Et donc, il n'y a pas d'aide à la tarification à proprement parler suite à une visite. Airbnb va quand même mettre en place un système de tarification dynamique qui propose à l'hôte, sur lequel on va lui dire il faut quand même indiquer un prix de base qu'on souhaite sur le bien et le système va faire fluctuer ce prix de base selon le temps et selon justement les fameuses méthodes de tarification dynamique qu'il faut mettre en place en location saisonnière. Cet algorithme-là, il est bien, mais ce qu'on remarque avec le temps, c'est que cet algorithme, il travaille pas pour l'hôte. Cet algorithme, il travaille pour garantir la promesse d'Airbnb qui est de proposer des logements à prix attractif toute l'année aux voyageurs. Donc sur ça, c'est pas forcément recommandé d'utiliser cet algorithme tarifaire.
Mais qu'est-ce qui décide de l'utiliser ou pas?
Alors, on peut cliquer l'option ou la décliquer. Mm-hmm. Donc comme ça, on peut le retirer si on le souhaite, comme c'est un peu un faux ami, quoi. Donc, quand on se dit ça, la question qui suit, c'est « Ok, mais comment je détermine mon prix alors ?» Sur ça, donc c'est l'hôte qui est en charge de déterminer son prix. Ce qu'on recommande pour déterminer son prix, c'est un, de faire une petite étude concurrence, mais encore une fois, le faux ami en la matière, c'est de se dire « Bon, je regarde 3-4 annonces autour de moi, je regarde quel prix c'est, et je vais me mettre un peu dans la moyenne. » Ça, c'est un faux ami parce que souvent, les personnes ne sont pas forcément formées en revenu management, justement, qui est la science de bien faire ses prix. Donc, s'ils se trompent, ben, on va se tromper avec eux. Donc, on peut faire cette étude concurrence, mais ce qui vraiment va être la référence en la matière, ça va être de regarder des données de marché. On a des sites qui existent comme RDNA, donc ça s'écrit A-I-R-D-N-A. Voilà, A-I-R-D-N-A, qui est un site, alors c'est un site payant, hein. Moi je ne travaille pas pour ce site-là, mais nous, chez J'affiche Complet, on l'utilise beaucoup, qui va permettre de voir quel est le potentiel financier que j'ai au temps T sur mon bien. Et c'est avec ça qu'on peut, du coup, déterminer des tarifications qui sont cohérentes. Et il y a sur ça des principes de base qui sont ne pas mettre le même prix tout le temps, il faut décliner ses prix selon le niveau de demande attendu. Bon, il y a plein d'autres leviers, mais bon, là, je pourrais en parler pendant à peu près 8 heures sans discontinuer. Donc...
Mais alors donc, du coup, c'est vous qui accompagnez ces gens pour les aider à comprendre le bon pricing? Ou alors, il faut qu'ils se lancent tout seuls parce que vous apprenez aux novices la location saisonnière à augmenter la rentabilité. Quels conseils pouvez-vous donner à celles qui ont envie de se lancer et qui ont commencé et sont déçues par les revenus qu'elles tirent de la location meublée?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui peuvent aider les personnes qui sont déçues du chiffre d'affaires qu'ils obtiennent. Il y a le premier point, ce fameux point de décliner les prix selon la période, parce que c'est vrai qu'on remarque que souvent, ce n'est pas forcément fait. Décliner les prix selon la période, c'est quoi? C'est de se dire, bah, notamment sur les données du marché, quand est-ce qu'il y a une forte demande dans ma ville et quand est-ce qu'il y a peu de demande? Quand il y a une forte demande, il faut que j'augmente les prix. Quand il y a peu de demande, il y a fort à parier qu'il faille les baisser pour pouvoir capter les réservations chez soi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de décliner, par exemple, les durées de séjour minimum qu'on va autoriser. La plateforme, elle nous permet de dire, bah, moi, je n'accepte des séjours que de 2 nuits minimum ou de 3 nuits minimum, 4 nuits minimum. Ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais attends, ça veut dire que si je mets 3 nuits minimum, quelqu'un qui veut séjourner 2 nuits, il ne va pas voir mon annonce. Bah, c'est, de prime abord, on pourrait se dire, c'est dommage parce que je passe à côté d'une vente. Là où, en fait, c'est vertueux, c'est quand on le met en place sur des périodes de forte demande. Parce que sur les périodes de forte demande, il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre disponible. Et donc, plus j'ai des longs séjours, plus c'est bah, pour moi de la tranquillité. Et plus, en plus, j'ai des chances d'avoir un remplissage le plus haut possible. Parce que je vais avoir très peu de trous en fait, entre les séjours. J'ai des séjours qui sont plus longs et je me donne beaucoup plus de chances de finir à 100% de remplissage de mon bien sur cette période-là. Donc ça, ce sont des pratiques à mettre en place qui vont vraiment changer la donne sur la performance financière de l'activité. On a aussi le travail des conditions d'annulation. Ce qu'on remarque, c'est que fréquemment, quand on s'inscrit sur la plateforme, les hôtes débutants, on va dire, vont oublier de changer leurs conditions d'annulation. Et ça peut être assez préjudiciable parce que de base, on nous met en flexible, c'est-à-dire annulable, remboursable, jusqu'à un jour avant l'arrivée.
Oui.
Nous, on recommande c'est plutôt, gérable. C'est ça. Et s'il y a une annulation, ben, on prend le risque vraiment de ne pas retrouver preneur pour notre logement. On recommande plutôt, nous, d'être annulable à 5 jours avant l'arrivée, ce qui permet d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir relouer. Et puis, un autre point qui peut aider aussi les personnes qui nous écoutent, c'est de ne pas céder aux sirènes des plateformes. Pourquoi je dis ça? Parce que les plateformes, il ne faut pas oublier qu'elles sont, par rapport à l'hôte, ce sont des commerciaux. C'est-à-dire qu'en tant qu'hôte, on peut souscrire à des produits, entre guillemets. Des produits, c'est quoi? Bah, c'est par exemple avoir une meilleure position dans les résultats de recherche en échange d'une commission plus importante.
Ah, oui.
Ils vont aussi nous inciter à mettre des promotions. Des promotions quand le voyageur utilise le mobile. Des promotions selon le pays du voyageur. Tout un tas de dispositifs comme ça qui sont pris un à un, super vertueux quand ils sont utilisés à bon escient, sur la bonne période et un bien qui est vraiment en difficulté. Mais parfois, j'entends des personnes qui me disent bah, « Moi, j'accepte tout parce que comme ça, j'ai plus de chances de fonctionner. » C'est un faux ami, vraiment. C'est-à-dire que n'utilisez ça qu'à bon escient. Et même si on se dit « Je n'utilise rien et je refuse tout », c'est pas pour ça qu'on va pas du tout fonctionner sur la plateforme. Donc, il faut qu'on évite de céder aux sirènes.
Parce que c'est des coûts qui s'ajoutent, tout ça, finalement.
Exactement, ce sont des coûts qui s'ajoutent. Et dans tout un tas de situations, on aurait pu tout à fait performer sans ça. Mais comme on nous invite à le faire et on nous dit que c'est mieux, on peut céder à ça alors que ça nous fait perdre de l'argent.
Je me demandais, est-ce que les locataires ont le droit de sous-louer leur logement en location saisonnière? Et si oui, à quelles conditions?
Alors, En tant que locataire, on peut sous-louer si on a l'autorisation du propriétaire. Donc, il faut faire la demande explicite, que ce soit validé par le propriétaire. Et la deuxième chose qui est possible, en fait, la sous-location, on le voit beaucoup aujourd'hui par le prisme d'une sous-location, on va dire, un peu cow-boy, illégale. Voilà. Il y a quand même un business model légal et solide qui existe autour de la sous-location. Il y a des personnes dont le métier, c'est d'être sous-loueur professionnel. C'est-à-dire qu'ils vont louer un bien à usage d'habitation avec un contrat de bail. Alors, il y a plusieurs écoles en la matière. Il y a soit le bail civil ou soit un bail commercial dérogatoire. Et dans les deux cas, en fait, ce contrat de bail lié entre le propriétaire et le sous-loueur autorise la relocation en courte durée. Donc, c'est un business model qui permet aujourd'hui à beaucoup de personnes de créer des entreprises qui exploitent comme ça en courte durée. Donc, c'est possible. Mais c'est encadré légalement. Il faut faire les choses bien. Sinon, c'est...
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Le sous-loueur, c'est un intermédiaire?
Oui. Ouais. Prenons le cas de ta maison. Tu vas me la louer, mais tu vas m'accepter que je la sous-loue avec un papier. Et là, on est dans un bail civil. Je vais la louer à Élise. Et donc, dans ces cas-là, elle a de ma part un bail et moi, j'ai de ta part un bail. Mmh. Bon, alors, Élise, quelle est la rentabilité brute moyenne de la location saisonnière? Si je veux rentabiliser ma résidence principale achetée à crédit, est-ce que c'est vraiment un bon complément de revenu de la louer les moments où je ne suis pas là?
Alors, la rentabilité brute qu'on peut espérer sur un projet en location saisonnière, c'est souvent supérieur à 10% de rentabilité brute, donc c'est des belles rentabilités. Ça peut aller très très haut. Maintenant, peut-être le point qu'il faut qu'on partage pour les personnes qui souhaitent investir et qui nous écoutent, le point de vigilance le plus important quand on souhaite investir, c'est de s'assurer qu'on a quand même une rentabilité en longue durée, qu'en fait, lors de l'investissement, que la rentabilité ne repose pas que sur la courte durée. Par exemple, un projet qui, en longue durée, me coûte de l'argent tous les mois, mais grâce à la courte durée, je peux avoir un projet rentable, n'est pas un bon projet dans lequel investir. Parce qu'on sait qu'en courte durée, on peut avoir des changements de règles, des municipalités, etc. Donc si demain, je me retrouve à être bloqué parce qu'il n'est plus autorisé de faire de la courte durée sur le bien, dans ces cas-là, on se retrouve avec un projet qui n'est pas bon.
Ouais, on a aussi le sujet de la transition énergétique. Est-ce que les lettres A, B, C, D, E, F, G sont applicables dans le cas de la location courte durée?
Ouais, c'est une bonne remarque, ça ne l'était pas jusqu'à présent et maintenant ils souhaitent le faire.
Est-ce que je peux louer ma passoire thermique, c'est ça?
Exactement. Jusqu'à présent, ça ne l'était pas et maintenant ils souhaitent le faire. Donc c'est vrai que tout ça sont des points de vigilance. Donc il faut avoir un projet immobilier qui va avoir la flexibilité d'être rentable quel que soit le scénario. Après, est-ce que je peux rentabiliser ma résidence principale achetée à crédit avec ce complément de revenu? Dans beaucoup de cas, c'est le cas. C'est-à-dire que alors ça dépend de la configuration du bien, mais on a des personnes qui vont intégralement acheter leur résidence principale en pensant à l'exploitation en courte durée d'une partie du bien, d'une partie de l'appartement. Donc oui, c'est possible. Oui. Mais encore une fois, ça nécessite des calculs soigneux et ça nécessite d'évaluer est-ce qu'on est prêt à y mettre du temps ou pas. Les plus grosses rentabilités, elles viennent toujours avec le fait d'y engager du temps parce qu'on a moins de charges. Donc il faut faire les calculs avec les coûts qu'on va avoir, notamment avec la conciergerie.
Alors Élise, une question sur le revenu moyen. Quel est le revenu moyen net d'une location saisonnière, ce qui reste vraiment dans la poche?
Alors ça, c'est une question qu'on se pose souvent. C'est même la toute première question qu'on va se poser. Combien je peux espérer en chiffre d'affaires avec ma location saisonnière? Alors, donner un chiffre, ce serait quasiment mentir, parce que c'est vrai que ça dépend de la localisation, ça dépend du type de bien. Ça dépend aussi du niveau de gamme, entre guillemets, du bien. Est-ce que j'ai une décoration qui est un petit peu dans son jus, que je n'ai pas changé depuis de nombreuses années? Ou est-ce que je viens de faire des travaux cette année, quoi? Dans tous ces cas-là...
Et aussi le nombre de jours où la résidence est disponible à la location.
Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir un effet ancienneté. C'est-à-dire qu'une annonce qui est souvent présentée, elle va mieux fonctionner. Il y a des avis positifs, donc ça peut booster en effet la performance et donc l'espérance de gain avec le temps. Du coup, pour répondre à cette question, la première solution gratuite, c'est de se référer aux données qu'on peut avoir des offices du tourisme dans sa ville ou des chambres de commerce, par exemple, qui peuvent donner un certain volet d'information. C'est une information qui est intéressante, qui arrive souvent assez tardivement, parce que du coup, on a souvent l'année dernière hyper tard. Mais c'est une information qui a l'avantage d'être gratuite. Après, si on souhaite aller plus loin et être vraiment sûr de l'espérance de gain qu'on va avoir, c'est de nouveau de se référer aux données de marché. Des informations qui nous permettent de se dire ce type de bien, avec ce niveau de gamme dans ma ville, ça permet de générer une fourchette de temps à temps de chiffre d'affaires. Et des sites comme je disais tout à l'heure, RDNA, je peux en citer d'autres aussi, hein. D'ailleurs, il y a Transparent, All the Rooms. C'est des sites qui vont permettre de répondre précisément à cette question et de faire des vrais calculs pour se lancer dans un projet qui parfois peut coûter un peu d'argent. Donc c'est important de bien faire ces calculs.
Mmh. Élise, que faut-il savoir en gros sur la fiscalité des locations saisonnières ? À déclarer comme bénéfices industriels et commerciaux, les impôts représentent quel pourcentage du prix de la nuitée ? Et puis, il y a ce sujet aussi des amortissements, parce qu'il y a de l'amortissement. Quand on parle de location au meublé, il y a des sujets d'amortissement. Et bien sûr, tous les coûts relatifs à la gestion, parce qu'il faut, dès lors qu'on a une organisation un peu substantielle, il faut un cabinet comptable, il faut un expert comptable.
Oui, tout à fait. C'est vrai que le sujet de la fiscalité, il n'est pas éludé dans ce projet-là. Peut-être le point le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est un sujet sur lequel on va avoir besoin d'un accompagnement professionnel avec un avocat fiscaliste, parce que ça dépend de chacune des situations. Ça dépend de comment on possède le bien. Est-ce que je le possède en propre ? Est-ce que je le possède en SCI ? Est-ce que cette SCI est imposée sur les revenus ? Est-ce qu'elle est imposée sur l'impôt des sociétés ? Quelle est ma situation familiale aussi, personnelle ? Il y a vraiment un nombre de paramètres qui est énorme et qui doit être vu de façon totalement personnalisée. Donc ça, c'est hyper important de se référer à un avocat fiscaliste, à un expert comptable qui va pouvoir nous accompagner sur, en effet, les abattements, les déductions, etc. Sur ça, peut-être pour donner des billes, moi, quand j'étais loueur saisonnier, j'exploitais, du coup, dans mon bien qui avait 3 chambres, 2 chambres en location saisonnière. Et du coup, je bénéficiais du statut qu'ils appellent de maison d'hôte ou chambre d'hôte sur la partie fiscale, avec un abattement de un peu plus de 70% sur le régime microbic et qui me permettait du coup d'avoir une fiscalité très 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 intéressante en la matière. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait par exemple.
Et c'est quelque chose qui va
changer. Ça, c'est quelque chose qui était, ça a changé là.
Exactement. Oui, parce que... Alors c'est pas encore fait. Mais ils envisagent de le faire, ouais. Oui.
Alors moi, j'ai lu que le gouvernement donc, a bien l'intention de raboter l'avantage fiscal dont bénéficient les meublés de tourisme du type Airbnb.
Psst ! Message de service ! Louer son appart pour les Jeux Olympiques sera sans doute moins rentable que prévu. Depuis la réalisation de cet épisode, les députés se sont attaqués aux abattements trop généreux pour les propriétaires. Pour inciter les proprios à mettre leurs biens en location longue durée, l'abattement des Parisiens tombe donc de 71% à 30% et dans la limite de 15 000 euros de revenus annuels tirés de la location. Une vraie loi anti-Airbnb. Mais nous en saurons plus quand le texte aura été définitivement voté. Et bref, avant de louer votre appart pour les Jeux Olympiques, renseignez-vous, calculez combien d'impôts et de CSG vous allez payer pour savoir ce qui va vraiment rester dans votre poche. Et nous retournons à la suite de cet épisode.
Et effectivement, donc, j'ai lu qu'il y a une proposition qui a été déposée par des parlementaires sur les locations de meublés saisonniers en zone tendue. En zone tendue, c'est-à-dire ces zones touristiques comme Paris, la Bretagne, où il y a trop de locations saisonnières qui changent la physionomie d'une ville et qui empêchent donc les locaux de se loger en location longue durée. Donc ces avantages fiscaux vont être rabotés.
Après, ce qui est intéressant aussi de partager sur ça, c'est que souvent on a un mouvement de panique de la communauté des investisseurs à propos de ça, dès lors qu'on a des réductions des avantages fiscaux. Alors oui, indéniablement, c'est moins intéressant hein, si on nous... Mais toutes les personnes qui crient à la mort de la location saisonnière à chaque fois qu'on a un petit changement ou un gros changement fiscal se sont souvent trompées dans le passé. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ça reste quand même très intéressant.
Ça reste intéressant,
ouais. Bien sûr. Alors, quelles sont les formalités à effectuer avant de se lancer ? Si on loue sa résidence principale ou bien si on loue sa résidence secondaire, il faut aller voir qui pour faire quoi, déclarer ça comment ?
Alors, la règle unique valable pour toutes les communes, c'est vraiment de se rapprocher de sa mairie. La plupart du temps, il faut se faire enregistrer. Il y a encore des communes sur lesquelles il n'y a pas forcément nécessité d'avoir un numéro d'enregistrement. Souvent, les plateformes vont nous le demander, quoi qu'il arrive. Ce fameux numéro d'enregistrement.
Donc ça veut dire que dès que j'ai décidé, par exemple, que pour la première fois, je vais louer pour les Jeux Olympiques, il faut que j'aille me faire enregistrer à la mairie de Paris.
Exactement.
D'accord.
Alors sur la mairie de Paris, c'est...
Oui, un numéro de registre de commerce, normalement.
Alors non, c'est un enregistrement de numéro, même si c'est un usage ponctuel, dans la limite des 120 jours, en tant que résidence principale. Mais selon les communes, c'est vraiment important de se rapprocher, quoi qu'il arrive, de sa mairie, parce qu'il y a des besoins qui peuvent être différents. Bah, par exemple, moi, à Malakoff, et d'ailleurs, je n'ai pas eu le droit, du coup, pour un bien, pour un T4 à Malakoff, donc proche Paris, pour l'exploiter en courte durée, la mairie m'a demandé un document de la copropriété qui valide la courte durée. Donc, j'ai fait toutes les procédures et ça n'a pas été accepté.
Ah oui, la copropriété a dit non, 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 non.
C'est
non.
Ça, la copropriété.
On ne peut pas être embêté par voilà. Les voyageurs.
Exactement. Mais c'est la première fois et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me demande ça à Malakoff. Et même quand j'en parle avec mes amis investisseurs, c'est la première fois qu'ils entendaient le fait qu'une mairie demande un document de la copropriété. Donc, il peut y avoir parfois des demandes spécifiques comme celle-ci. Il faut se rapprocher de sa mairie pour savoir.
Je me demandais, quand est-ce que les autres sont payés par la plateforme? Est-ce qu'ils sont payés dès la transaction conclue sur le site?
Alors, sur Airbnb, on est payé juste après l'arrivée du voyageur, enfin un jour ou deux après l'arrivée du voyageur. Sur Booking, on est plutôt payé après le départ du voyageur. Donc, Il peut y avoir des petits états de trésorerie qu'il faut anticiper, en effet, parce qu'on ne reçoit pas tout de suite l'argent.
Alors, beaucoup d'autres potentiels sont tentés par la location saisonnière, mais ils sont freinés par la peur des dégâts.
Tu m'étonnes.
Le vol des squatteurs.
Des squatteurs.
Qui seraient apparemment de plus en plus nombreux. Y a-t-il des statistiques sur les divers incidents subis par les hôtes?
Oui. Alors, sur la partie statistique, pour avoir réépluché ce sujet-là que j'avais essayé d'un peu d'éplucher dans le passé, j'ai trouvé aucune statistique en la matière. Et je pense que les plateformes se gardent bien de diffuser des statistiques à ce propos, et ce que je peux comprendre complètement. Maintenant, à la lumière de ce que nous, on voit, en tout cas chez J'affiche Complet, on travaille pour plus de 1700 biens dont on optimise la tarification. Et à la lumière de ça, il y en a des problèmes, mais heureusement, ce n'est pas la majorité. Puis souvent, quand on a peur de problèmes, on a vraiment peur de choses très graves, quoi. Vraiment, un appartement saccagé, complètement dégradé d'insalubrité, etc.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit dans la presse.
Oui.
Sans jouer l'oiseau de mauvaise augure, j'ai une cliente qui dans un appartement avec un bail commercial, a loué à quelqu'un qui fait de la location saisonnière. Lui, il est payé. Elle, elle n'est pas payée. Voilà. Et ça fait un moment que ça dure. Alors, elle essaie d'intervenir auprès de la plateforme. La plateforme lui dit...
On marche sur la tête, là.
Ouais.
Ah bah oui. Bah ça, c'est... Alors ça, pour le coup, c'est de la juridiction des contrats, quoi. C'est-à-dire que c'est une relation commerciale sur laquelle il y a un acteur qui n'est pas sérieux par rapport à l'autre. Mais c'est vrai que sur les dégradations qui pourraient être occasionnées par les voyageurs... La peur est plus grosse que la réalité. Et c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques en la matière parce que les plateformes ne communiquent pas sur ça.
Élise, quelle assurance faut-il avoir en cas quand même de dégâts faits par les voyageurs? Et est-ce qu'on peut être remboursé des dégâts commis par ces voyageurs?
Alors, en tant que propriétaire, il faut être assuré, hein, comme on le serait, quoi qu'il arrive, sur l'exploitation d'un bien, même en longue durée. Il y a certains assureurs qui peuvent prendre en charge l'exploitation Airbnb. Et pourquoi je dis prendre en charge spécifiquement l'exploitation Airbnb? Parce qu'ils peuvent prendre en charge les pertes d'exploitation en cas de dégâts, même de dégâts des eaux, etc. C'est pas tous les assureurs, mais ça peut arriver. Maintenant, on a quand même d'autres protections qui sont possibles en cas de dégradation. Sur Booking.com, on peut mettre une caution, par exemple, qui sera ponctionnée en cas de dégradation. Il faut faire valoir le coût de la dégradation et Booking va utiliser cette caution pour nous rembourser. On a sur Airbnb quelque chose qui prend en charge des sommes plus importantes, c'est AirCover. C'est le système d'assurance d'Airbnb. Alors, ça a l'avantage que personne n'ait besoin de payer, parce que le voyageur, du coup, il ne paye pas. On ne peut pas demander du coup de caution sur Airbnb, mais en cas de problème, on peut faire valoir ça auprès d'Airbnb qui va rembourser avec cette assurance AirCover les préjudices. Et ils l'ont étendu il y a un peu moins d'un an. Donc ça va plus loin, ça va même jusqu'à des dégradations liées aux animaux de compagnie, ce qui n'était pas le cas avant. Ça va même aussi jusqu'à des dégradations liées au ménage. Par exemple, un bien qui aurait été restitué vraiment très sale et qui occasionne des heures de ménage additionnelles, ça peut être pris en charge. Si on veut aller plus loin sur ça, on peut s'adosser de certaines solutions qui existent comme Sweekly, c'est une solution de caution.
Sweekly ?
Voilà, c'est ça. Et ça s'écrit S-W-I-K-L-Y. Mm-hmm. Et ça permet en fait d'être assuré. C'est une caution qui, sur leur forfait payant, qui garantit le fait d'être remboursé en cas de problème. Parce qu'eux-mêmes sont assurés par un assureur derrière qui permet d'avoir ça. Et pour aider aussi les personnes qui nous écoutent, il y a aussi des solutions pour se prémunir des problèmes. Parce qu'on peut avoir des problèmes aussi liés aux fêtes qui occasionnent des dégradations, la fumée de cigarettes, ces choses-là.
Ils sont un peu venus pour faire la fête, c'est ça le souci.
C'est ça.
On les comprend, mais de l'autre côté de la barrière...
Ça ne nous arrange pas du tout.
Pas du tout, non.
Donc pour ça, il y a des solutions comme Minute, par exemple, M-I, comme une minute, mais sans le E. Et c'est un petit boîtier qu'on met dans l'appartement qui va mesurer les décibels dans le bien, qui nous permet d'anticiper, de savoir si les décibels montent trop haut et donc d'agir en conséquence jusqu'à potentiellement un appel à la police.
Alors, si mes voyageurs ont réservé, ils étaient 4 et finalement, ils viennent à 10. Quels sont mes recours?
Ça, c'est les voisins qui t'informent.
Non, ça, c'est l'histoire de mon fils. Ils ont loué une maison en plein milieu de Vercors. Ils l'ont loué à 4, ils sont arrivés à beaucoup plus que ça.
Ah ouais.
Oui, ils avaient quoi, 20 ans. Et ils ont fait un deal avec ça. Bon.
Alors, ben ça, justement, par exemple, la solution Minute, encore une fois, ce n'est pas une société pour laquelle je bosse, mais c'est une solution qui permet de mesurer aussi le nombre de personnes qu'il y a dans le bien. Donc ça évite... En tout cas, ça permet de le savoir, s'il y a un problème comme ça. Après, souvent, cette question-là, elle se pose rarement quand on a un bien qui ne peut pas accueillir 10 personnes. Ça fait partie aussi des craintes qu'on peut avoir. Alors là, c'est dommage, c'était un cas comme ça. Mais encore une fois, nous, à l'échelle des 1700 biens, c'est rarissime qu'on ait des cas comme ça. Le cas qu'on peut avoir qui est plus fréquent, c'est un bien qui peut effectivement accueillir plus de personnes, qui peut accueillir 10 personnes, par exemple. Et sur lesquels on a décliné les prix. Si on arrive à 4, c'est moins cher que si on arrive à 6 ou que si on arrive à 10. Donc certaines personnes se disent, bon, on va dire qu'on n'est que 4, on paiera un peu moins cher.
Et en fait, ils sont 6,
en fait,
8.
Voilà, et ils n'ont pas voulu payer le delta qu'il y a entre 4 à 10.
Ils ont amené personnes. Des sacs de couchage. ils sont venus avec leur lit d'appoint.
Bah, comme ce sont des biens qui peuvent accueillir 10 personnes, il y a les solutions de literie. Mais ils n'ont pas payé pour ça.
Ils n'ont pas payé pour ça.
Dans ces cas-là, ce qu'on peut recommander,
les
c'est
coquins.
De... C'est ça. Dans ces cas-là, ce qu'on peut recommander, c'est de fermer les chambres.
Oui.
De fermer les chambres en prévenant le voyageur en amont que bah, si vous êtes 4, on va vous donner, par exemple, 3 chambres pour loger les 4 personnes si ce ne sont pas 2 couples. Mais on ne vous ouvrira pas les 6 chambres du logement, quoi.
Oui, il y a des solutions. Alors, Élie, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'on peut choisir ses voyageurs? Par exemple, est-ce qu'on peut dire ou se dire, voilà, moi, je veux des voyageurs non seulement expérimentés, respectueux évidemment des appartements, des maisons, mais qui ont effectué au moins 3 séjours sur la plateforme et qui ont reçu uniquement des évaluations positives, des avis positifs, pour éviter évidemment les mauvaises surprises comme on venait de parler, et notamment, par exemple, des squatteurs qui pourraient rester sur place.
C'est possible sur Airbnb, par exemple.
Oui.
On peut bloquer l'accès, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en réservation instantanée et on va pouvoir poser des questions au voyageur avant de valider son arrivée et sa réservation, en fait. C'est quelque chose qui peut être rassurant, mais qui n'est pas recommandé pour la performance de l'annonce. L'algorithme Airbnb favorise, en fait, les réservations instantanées. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que c'est ce qui convertit le mieux. Et ce que veut Airbnb, c'est prendre des parts de marché à Booking.com. Donc, ils ne veulent pas que le voyageur oscille entre Airbnb et Booking, finisse par réserver sur Booking.com. Donc, l'instantanéité leur permet de prendre un maximum de réservations. Donc, si on a une annonce sur laquelle on n'est pas en réservation instantanée, on souhaite valider les voyageurs avant qu'ils viennent, notre annonce, elle va être pénalisée dans les résultats de recherche. Donc, ce n'est pas forcément recommandé, mais... Pour se rassurer, il y a quelques règles qui ont été mises en place pendant la pandémie par Airbnb et qui sont maintenues actuellement. Par exemple, le fait qu'un voyageur qui a moins de 25 ans, qui réserve sur sa ville de résidence, il ne peut pas réserver.
Mais pourquoi ?
Il ne peut pas réserver parce qu'ils ont remarqué que c'était la configuration dans laquelle on avait le plus probablement un projet de fête. Par exemple, un jeune qui a 19 ans, qui vit à Chartres et qui réserve un bien à Chartres, il y a fort à parier que ce soit pour faire la fête. Donc, cette configuration n'est plus possible. Donc, c'est déjà premier vecteur de réassurance, on va dire. Et pareil, dans les faits, on remarque que sur Booking.com, par exemple, ce n'est pas possible de valider le voyageur avant même sa réservation. On peut poser quelques questions maintenant si on le souhaite. Mais honnêtement, de la même façon, dans les faits, tout le monde est noté aussi sur les plateformes. Il ne faut pas oublier ça.
Oui,
donc, Maintenant, l'hôte et le voyageur sont un peu sur la même position, quoi.
Mais effectivement, si c'est un projet de fête, ça peut être un one-shot. Le jeune n'a pas d'avis négatif puisque c'est la première fois, mais ouais. On ne reverra pas deux fois celui-là, peut-être.
Oui, c'est ça. Bah, sur
après
Airbnb,
qu'il aura sa cachée de la maison. Ouais.
Mais Minute est là pour surveiller le nombre de personnes qui sont là.
Voilà, c'est ça. Et on a bien checké notre assurance de tous les côtés. On a regardé si on était bien assuré. Et c'est la fin de cet épisode sur la location saisonnière. Merci à vous, Élise, d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez appris plein de choses sur la rentabilité, la fiscalité et tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la location saisonnière. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. Parlez-en à vos copines, vos sœurs, vos cousines, vos collègues, votre fille, votre mère, votre grand-mère. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits, Les filles osons parler argent chez Luno et aussi L'argent au féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent Parlons Cache les filles.
À bientôt.